Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de prédications sur le livre du prophète Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, donc il est très facile à trouver. Si vous connaissez le premier évangile, c'est juste avant. Le titre de cette prédication, c'est un peu provocant, c'est « Vous me trompez ». Vous me trompez, c'est l'Éternel qui proclame ça à son peuple, « Vous me trompez ». Donc, ce livre de Malachie, c'est un texte qui est très concis, très direct, d'une construction tout simplement extraordinaire pour ceux qui ont l'habitude d'analyser un peu les textes. Penchez-vous sur ce livre, vous serez émerveillés pour voir l'articulation des dialogues entre Dieu et son peuple. Certains ont mentionné que c'est un livre qui pouvait ressembler un petit peu à un match de boxe où Dieu envoie un coup, le peuple essaye de renvoyer un coup, mais Dieu renvoie encore. Donc c'est Dieu qui répond de manière très précise à différentes questions ou interpellations du peuple d'Israël sur Dieu. Ce livre se compose de 6 oracles, bâtis sur le même schéma, avec une introduction portant sur les rapports de Dieu avec son peuple, introduction suivie d'une remontrance sévère qui reprend une question que le peuple se pose au sujet de Dieu pour y répondre ensuite. Donc 6 oracles, le premier porte sur l'amour de Dieu. Dieu dit « Moi je vous ai aimé ». Et le peuple dit « Quoi ? En quoi tu nous as aimés ?» Et Dieu répond « J'ai écarté tes ennemis ». Ensuite, c'est l'honneur de Dieu qui est en cause. Et Dieu interpelle le peuple sur l'honneur qui lui est dû. Et le peuple dit « Mais en quoi t'avons-nous méprisé ?» Et Dieu répond « Eh bien, vous avez offert des animaux impurs, alors que vos offrandes, ce doit être des animaux sans défaut. » Et puis ensuite, Dieu interpelle le peuple sur sa fidélité, sur son alliance, en évoquant les mariages avec des femmes non-croyantes, non-juives, et en pratiquant des divorces pour épouser de jeunes femmes. Et puis ensuite, des doutes du peuple sur la justice de Dieu. Le peuple s'interroge, mais Dieu, comment ça se fait? Regarde les peuples voisins, tout va bien pour eux et nous, on est dans la misère. Où est ta justice, Seigneur? Et là, dans cet oracle, eh bien, Malachie, Dieu, annonce l'arrivée d'un messager, en fait de deux messagers, Jean-Baptiste d'abord, puis ensuite le messager. Dans cette période de Noël, c'est Jésus-Christ qui est annoncé comme étant vraiment la réponse à la justice de Dieu. C'est lui qui porte notre péché. Donc Dieu exerce sa justice au travers de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, eh bien, c'est des manquements du peuple par rapport à ce qui est dû à Dieu. Vous me trompez, vous me volez, parce que vous ne donnez pas la dîme qui m'est due pour le culte. Et puis, le dernier oracle que nous verrons ultérieurement, sur les doutes et le découragement du peuple. Bref, je vous invite maintenant à écouter cette lecture dans donc le livre de Malachie, au chapitre 3, les versets 6 à 12. Je vous laisse le temps de chercher dans votre Bible. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. sous-entendu me trompe. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous, la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voyons la problématique résumée dans les deux premiers versets. Quelle est l'attitude de l'Éternel qui est mise en avant par Dieu lui-même comme un préambule à cet oracle, une affirmation de Dieu ? Le premier verset dit « L'Éternel ne change pas, il est fidèle dans ses engagements. » Sous-entendu dans ses engagements pris avec Abraham, avec sa descendance, de ne pas détruire le peuple. Et quel est le problème du peuple par rapport à Dieu ? Eh bien, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les respectez pas. C'est très clair, très direct, il n'y a pas besoin de faire de commentaires très très longs. C'est clair, voilà, on a entendu les objections de l'Éternel qui dit que le peuple ne respecte pas les prescriptions qu'il a données à son peuple. Et que dit l'Éternel encore suite à ça ? Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est tout simple. Et pourtant, on voit là en fait aussi une deuxième qualité de Dieu qui attend que son peuple revienne à lui. Il lui laisse la liberté. Il ne veut pas d'un amour forcé, mais il veut un amour volontaire. Et c'est une marque indéniable de son amour pour son peuple. Je pense ici à l'attitude du père dans la parabole du fils prodigue que vous connaissez sans doute. Le père a laissé partir son fils qui lui réclamait la part de son héritage. Mais ce père, et ceux qui ont des fils ou des enfants peuvent imaginer, ce père, eh bien, il espère, il attend inlassablement le retour de son fils. Et malgré son âge, je sais de quoi je parle, eh bien, il a couru quand il a aperçu son fils qui arrivait à l'horizon. Tout ça pour accueillir son fils qu'il aimait. Il aurait pu utiliser sa richesse pour déclencher des recherches, pour le ramener de force, etc. Non, il l'a laissé. L'amour est librement consenti. Mais immédiatement et en réaction à ce premier coup de poing de Dieu qui envoie à son peuple, hein, vous vous êtes écarté de mes prescriptions, eh bien le peuple est piqué au vif et il réagit et il essaye de se défendre. Il ne comprend pas ou ne veut pas voir la réalité de la situation. Et c'est toujours la même attitude de défense du peuple et sa même attitude de questionnement. Tu nous dis de revenir, Seigneur, mais en quoi devons-nous revenir ? Verset 7b. Le peuple demande à Dieu, en quoi devons-nous revenir ? Le peuple ne voit rien de répréhensible dans sa vie, dans son attitude. Mais Seigneur, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? On n'est pas parti, alors pourquoi on doit revenir ? C'est une réaction que nous connaissons bien entre nous les humains, aussi avec nos enfants, pour ceux qui en ont. Vous pouvez avoir ce genre de réaction. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais je n'ai rien fait de mal. J'ai pourtant encore le doigt dans le pot de confiture, mais j'ai rien fait de mal. Et pourtant, c'est alors que Dieu ouvre son sac et livre une accusation très précise au peuple. Vous me trompez. Il n'y a pas de détour, c'est direct. Vous me trompez, vous me volez. Voilà. Quel choc! Mais cela ne suffit pas. Le peuple n'a pas encore l'air de comprendre et il faut que Dieu lui dise précisément « Vous ne me donnez pas la totalité de ce que vous devez me donner. Vous retenez vos dîmes et vos offrandes. » Et pourtant, la loi juive était très claire à ce sujet. Ils devaient donner la dîme de leur récolte, de leur revenu. Mais ils ne le faisaient pas. Ces choses leur avaient-elles été enseignées? Sans aucun doute, oui. Certainement, mais comme on l'a déjà vu, souvenez-vous, les prêtres n'étaient pas fidèles dans leur enseignement. Et le peuple était de connivence avec ses défauts d'enseignement. Cela les arrangeait bien, au passage. Et l'on a bien là la démonstration de cette spirale de déchéance spirituelle qui petit à petit conduit le peuple à négliger complètement la ligne voulue et tracée par Dieu et qui pourtant au départ était pleinement acceptée par le peuple. Si vous lisez l'Ancien Testament au début, on voit la fidélité du peuple au départ. Quand on laisse prise à Satan, nous-mêmes, hein, sur des petites choses, cela conduit inexorablement à lui donner prise petit à petit sur des choses beaucoup plus importantes dans nos vies. Et de plus, cela nous aveugle. Nous pouvons en arriver à ne plus nous rendre compte que nous sommes à côté du sujet. Et cela nous provoque une crise d'amnésie au point de ne plus nous souvenir de la loi ou du code de la route. Et ce verdict tombe au verset 9 de notre texte. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que vous me volez. C'est du sérieux. C'est un peu comme quand vous recevez un courrier, ça ne m'est jamais arrivé, ni à vous d'ailleurs, vous annonçant que vous êtes sous le coup d'un retrait de points du permis de conduire ou d'une forte amende. Le verdict tombe. On ne discute pas, il tombe. Nous sommes encouragés, nous, et nous sommes boostés à rester fidèlement attachés à l'enseignement de la parole de Dieu, la Bible. Et à ce point du texte, on pourrait s'attendre à ce que le peuple soit puni, anéanti, mis en prison. Mais au verset 10, c'est la bienveillance de Dieu qui, une fois de plus, se révèle. Et cette bienveillance de l'Éternel, qui n'a pas changé, comme il l'a lui-même exprimé au début de notre texte, verset 6, en disant « Je ne change pas », eh bien, et il confirme « Vous n'avez pas encore été détruits ou exterminés malgré toutes vos défaillances ». Et l'Éternel exhorte, réexhorte, renouvelle l'exhortation fermement au peuple, au verset 10, « Apportez toutes les dîmes dans leur totalité à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Voilà ce que rappelle l'Éternel. Autrement dit, il exhorte à appliquer correctement la loi fixée à l'origine par Dieu pour qu'il y ait des vivres pour les prêtres et pour le fonctionnement du culte et du temple à l'époque. Mais le Seigneur n'en reste pas là. Il est conscient que le fait de donner un dixième de ses récoltes puisse être un véritable défi, un véritable pas de foi pour le peuple. En effet, comment assurer la survie de la famille? Et que se passera-t-il en cas de coup dur, en cas d'épidémie, en cas de sécheresse, en cas de changement climatique, en cas de rupture d'approvisionnement du pétrole, du gaz? Ce dixième de la récolte serait pourtant bien utile pour la famille, et peut-être même insuffisant. Et c'est là que l'Éternel complète son exhortation du verset 10 en prodiguant ce merveilleux encouragement au travers d'une promesse qui est célèbre, parfois qu'on interprète mal, à savoir que pour le peuple d'Israël, apporter l'intégralité de sa dîme est une manière forte de montrer par la foi qu'il croit que le Seigneur peut le combler avec surabondance de sa bénédiction. Et il peut même ouvrir pour lui les écluses des cieux. Mais cette ouverture des écluses des cieux est la contrepartie de l'apport de la totalité des dîmes. Ce n'est pas une promesse inconditionnelle. Et pour que cette promesse ne reste pas vague, et comme pour donner de l'espoir au peuple, l'Éternel indique deux moyens de bénédiction dans notre texte. Et je vais vous lire ce qu'il nous dit au verset 10 et 11. « Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses, les fenêtres du ciel, dans la traduction que j'ai utilisée, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Le premier moyen que l'Éternel annonce, c'est l'ouverture des fenêtres du ciel. Certaines traductions disent les écluses des cieux. Ce moyen recouvre, à mon avis, aussi bien le soleil que la pluie. Tous ceux qui font un peu de jardinage, je sais qu'il y en a plusieurs dans cette salle, connaissent très bien l'importance de ces deux paramètres que sont l'eau et la chaleur, le soleil. Mais Dieu complète sa promesse en dévoilant un deuxième moyen, une autre de ses capacités, celle d'être un puissant insecticide capable de détruire les insectes voraces et nuisibles. Beaucoup ont déjà pu être déçus de voir leur belle récolte de tomates prometteuses détruite par le mildiou, ou leur salade ou leurs fraises mangées par les limaces, même des fois par les sangliers, nous on a eu ça. Cela pouvait bien parler au peuple qui avait déjà entendu parler de la puissance de Dieu manifestée à l'époque par une capacité contraire à celle de l'insecticide, hein, puisque l'Éternel avait envoyé des insectes pour détruire les récoltes du Pharaon en Égypte au moment où le Pharaon refusait de laisser sortir son peuple. Donc Dieu était capable d'envoyer des insectes, mais là il affirme qu'il est capable de leur clouer le bec. Là encore, nous voyons l'expression et l'affirmation de l'amour de Dieu pour son peuple, amour qui implique en même temps un pas de foi sérieux de la part du peuple, à savoir celui de prendre soin des prêtres et du culte au moyen de leur dîme. Mais Dieu n'en reste pas là. Il appuie encore ses affirmations en garantissant que le peuple sera béni au point de susciter, verset 12, l'admiration et l'envie des autres nations. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et ce n'est pas n'importe qui proclame ces affirmations au verset 10 à 12. Hein. Il s'agit du maître de l'univers. Dieu se déclare comme le maître de l'univers. Donc il n'y a pas d'autre autorité au-dessus de lui dans les puissances du monde. Et selon ma concordance basée sur la traduction seconde 1910, c'est-à-dire que c'est une concordance déjà un peu ancienne, j'ai compté dans le livre de Malachie plus de 20 fois l'affirmation de l'Éternel des armées ou du maître de l'univers. Plus de 20 fois, 24 je crois. Ce n'est pas rien. C'est un garant que les promesses qui sont dans ce livre de 3 chapitres sont sérieuses, sont garanties par le plus puissant de ceux qui peuvent garantir quelque chose, l'Éternel, maître de l'univers. Bon, mais ça c'est très bien, tout ce que je vous ai dit, c'était pour le peuple juif. Sauf erreur, nous ne sommes pas en tout cas une communauté juive, hein, peut-être qu'il peut y avoir des juifs parmi nous, peu importe, mais quand même pour nous aujourd'hui, à ce point du texte, nous pouvons nous interroger sur la dîme et les offrandes que le peuple juif devait consacrer à Dieu. À l'époque, la dîme était le seuil, le niveau que Dieu avait fixé pour garantir la bonne marche de la vie cultuelle en Israël. C'est un seuil qui devait être considéré comme possible et atteignable pour le peuple, mais quand même assorti d'un sérieux pas de foi, comme on vient de l'évoquer. Et pour nous qui ne sommes plus dans le même contexte que celui du peuple juif, nous avons l'enseignement du Nouveau Testament. Alors, que dit le Nouveau Testament précisément ? Premier point, c'est qu'il est frappant de constater que le mot dîme est très peu mentionné dans le Nouveau Testament, et chaque fois qu'il l'est, c'est en référence avec des pratiques juives de l'époque, mais jamais en tant que consigne pour les chrétiens d'aujourd'hui. On est soulagé, hein, d'entendre ça. Il y a quelques versets, chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, et deux épisodes des Évangiles, l'un sur le jeune homme riche, où le jeune homme riche dit qu'il a donné le dixième de tous ses biens, hein, il était fidèle et tout, et puis une polémique avec les pharisiens, qui à l'époque payaient leur dîme sur les brins de menthe qui poussaient au fond de leur jardin. Hein, c'est comme si vous faites pousser de la ciboulette dans votre jardin. Eh bien, eux, ils donnaient le dixième de cette ciboulette pour l'Éternel. Ils étaient fidèles jusque dans les moindres détails de cette dîme. Voilà. Mais c'est tout ce qui est, et ça concernait, en fait, Jésus relatait des événements qui concernaient des Juifs. Voilà. Mais ça ne nous concerne pas en tant que nous chrétiens. Alors, donc, premier point, le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme pour les chrétiens. Le deuxième point, c'est que le Nouveau Testament, par contre, parle très souvent de la relation à l'argent, aux richesses et aux biens. Là aussi, prenez une concordance et faites-vous une opinion vous-même. Et j'ai juste relaté deux versets pour un peu saillants pour illustrer ce que je dis. C'est que dans Paul, dans l'épître première à Timothée, au chapitre 6, verset 10, dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est bien connu, personne ne va contester ça, on est bien d'accord. C'est le Nouveau Testament qui le dit. Donc ça s'applique pour nous. Acte 20, verset 35, un autre verset, qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Voilà. Et la liste serait vraiment très longue, et ce n'est pas l'objet de d'énumérer tous les versets qui en parlent, mais faites-vous une idée par vous-même, chez vous. Le troisième point, c'est que les contributions volontaires des chrétiens, que l'on appelle souvent les offrandes ou les collectes, enfin, appelez ça comme vous voulez, eh bien, elles sont par contre souvent, même assez souvent, très souvent peut-être, encouragées dans le Nouveau Testament. Et ces contributions volontaires s'inscrivent dans un quadruple contexte, que je vais rapidement survoler, rassurez-vous, ça ne prendra pas trop de temps. Premièrement, un contexte de liberté et de joie. Deuxièmement, un contexte de responsabilité. Troisièmement, un contexte de solidarité. Et enfin, un contexte d'exercice de notre foi, exercice de la foi. Alors reprenons ces quatre contextes, liberté de joie, de contexte de liberté et de joie. Je vais me contenter de lire un court passage de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Alors, écoutez bien et capter les mots « liberté et joie » ou « libre et joie ». 2 Corinthiens 9, 5 à 7, « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ses frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. Rappelez-vous, semence parcimonieuse égale maigre récolte, semence généreuse égale moisson abondante. Que chacun donc donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Voilà. Donc vous retrouvez les deux mots, liberté ou libre, le don libre et le don joyeux. Premier contexte, donc liberté et joie. Deuxième contexte, responsabilité. Le chrétien est désireux je l'espère pour vous, je l'espère aussi pour moi, d'obéir à Jésus et en particulier à son mot d'ordre d'envoi dans Matthieu 28, 19 à 20, quand Jésus dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations, tous les peuples, sur les traductions, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Nous sommes tous ici, comme au premier siècle, comme dans le futur, co-responsables devant Dieu de la bonne mise en œuvre, en pratique de cet ordre de mission de Jésus à ses disciples de l'époque, donc à nous aussi. Et il convient de soutenir et d'encourager la mission, d'annoncer l'Évangile, donc de soutenir financièrement les missionnaires. On a eu la semaine passée, ou il y a 15 jours, un week-end missionnaire. C'est dans le contexte de cet ordre que Jésus a donné d'annoncer la bonne nouvelle dans tout le monde, mais aussi ici. Et le déploiement de l'Évangile s'est fait en bonne partie par des chrétiens séculiers, mais aussi par des envoyés qui étaient soutenus financièrement par d'autres chrétiens. D'où le développement des missions à différentes époques et encore aujourd'hui. Ce matin, j'écoutais à la radio chrétienne sur le poste, l'envoi, c'est un Jacques, qui s'appelait Jacques, qui est parti évangéliser au nord de l'Inde. Bon, je crois que je me trompe sur le nom de... je regarde mon épouse. Mais ouais, donc depuis Israël, ils sont partis. C'était, je crois que c'était Thomas, qui est parti jusqu'au nord de l'Inde. Bon, ben ça ne se fait pas tout seul. Il a été certainement aidé, même financièrement, par d'autres chrétiens. Apprendre aux nouveaux convertis à obéir à toutes les prescriptions que nous dit ce verset de Christ se fait par les chrétiens eux-mêmes. Les parents vis-à-vis de leurs enfants, les anciens de l'Église, par rapport aux autres membres de l'Église. Mais puis, à un moment donné, il faut un pasteur. Le pasteur, il peut être bénévole, mais il veut se former, il va avoir un peu de temps, il faut le soutenir. Donc, il faut qu'on soutienne les œuvres d'enseignement, de formation des prédicateurs, des pasteurs, des théologiens, et puis qu'on soutienne les églises. Et les églises, elles peuvent fonctionner avec des laïcs pendant un temps, mais assez vite, il est nécessaire d'avoir des conducteurs à plein temps, et donc salariés. Et puis, de même pour les enseignants de la bonne doctrine. Je peux juste dire qu'hier, on a eu le plaisir, j'étais à l'Assemblée Générale de l'ITE, dont je suis le secrétaire, c'est la réunion de la Faculté de Théologie de Vaux-sur-Seine et de l'Institut Biblique de Nogent, et on a accueilli une nouvelle œuvre d'enseignement qui s'appelle l'ITEAG, qui est une œuvre, l'Institut de théologie évangélique, des Antilles et de la Guyane. Je sais qu'il y a des Antillais parmi nous, qu'il y a des personnes qui ont vécu en Guyane, mais voilà, bonne nouvelle, il y a un institut qui a été créé, et le père de quelqu'un qui est dans la salle participe à cette œuvre aux Antilles. Donc c'est voilà des choses concrètes qu'il faut soutenir et dans le cadre de cet ordre donné par Jésus, d'aller par tout le monde. Cette œuvre, elle a aussi besoin de soutien financier, vous voyez. Donc, voilà, et les chrétiens ont besoin de se réunir aussi entre eux. Alors, on peut se réunir chez soi, avec des amis. C'est ce que, pour cette église, par exemple, pendant 5 ans, pendant 3 premières années, c'était dans une famille à Fontainebleau, les 2 années suivantes, c'était dans notre salle de séjour, et ensuite, il a fallu équiper et acheter ce bâtiment. Voilà, c'est aussi des besoins financiers. Bref, il convient donc de s'organiser en conséquence pour que toute cette œuvre d'annonce de l'Évangile, de propagation de l'Évangile, puisse être menée. Voilà. Donc nous sommes donc, en tant que chrétiens, responsables de soutenir financièrement notre Église, notre pasteur, nos pasteurs, nos missionnaires, les œuvres d'enseignement biblique, et etc. Donc, c'est un contexte de responsabilité. Nous sommes responsables. Troisième contexte, j'ai dit que c'était la solidarité. Ce verset, un verset de l'épître de Jacques résume bien cette responsabilité des chrétiens dans le domaine de la solidarité. Jacques, chapitre 1, verset 27, nous dit que la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Soutenir les orphelins et les veuves. Bon, on peut aussi élargir ce champ d'action aux autres problèmes que sont les problèmes de santé et les problèmes alimentaires. Cette solidarité se manifeste de différentes manières, mais la plupart du temps, elle implique aussi un engagement financier des chrétiens. Trois contextes, la joie et la liberté, la responsabilité, la solidarité. Le dernier contexte, c'est l'exercice de la foi. L'exercice de la foi. L'un des plus gros obstacles à la générosité des chrétiens, c'est la crainte de ne pas avoir assez pour soi-même et pour les siens. Chacun peut réfléchir sur ce que je dis là, moi le premier. C'est ça la crainte pour le don. Il y a un deuxième obstacle qui est le manque d'organisation. La création et le suivi d'un budget familial est une grande aide et permet de prévoir de manière réfléchie et en première place le poste du budget personnel familial, don à l'Église et aux œuvres. Afin d'éviter de tomber dans le travers tellement fréquent de la gestion des restes. Si vous comprenez ce que je veux dire, hein. Et oui, Seigneur, tu peux constater toi-même que en cette fin de mois, il ne me reste plus rien. Il ne me reste plus rien. Et ça fait des mois que ça dure. Sauf que si je suis un tantinet honnête, de manière générale, hein, hors cas particulier, et si je suis objectif, je peux discerner a posteriori que je n'ai pas vraiment fait attention aux dépenses plus ou moins superflues et aux priorités dans mes choix. Que j'ai pu engager sans organisation. Certes, il ne s'agit pas de donner sans réflexion, mais de mettre à l'épreuve le Seigneur, comme il est dit dans notre texte, par la foi, en donnant ce qu'il faut pour qu'il y ait suffisamment de vivre dans la demeure du Seigneur, comme dit le verset 10 à l'époque de l'Ancien Testament. Alors la question c'est, combien donner ? Pour la pauvre veuve de l'Évangile, chapitre 21, versets 1 à 4, vous savez, cette pauvre veuve que Jésus observait avec ses disciples et au moment de l'offrande et qui a donné une petite pièce. Eh bien, pour cette pauvre veuve, le seuil de ses dons, c'était 100%. 100% de ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Et le pourcentage des riches qui étaient autour d'elle, qui donnaient aussi, et qui donnaient même beaucoup, hein, eh bien, ce pourcentage, c'était au niveau de leur superflu. C'est-à-dire, si on dit c'est le superflu, ça peut être peut-être 10%, ou 5%, ou 20%, mais c'était, ça ne les gênait pas pour vivre. Hein. Donc, chacun peut honnêtement se positionner par la foi devant Dieu sur un budget. Et la fourchette est large. Elle va de 0 à 100%. Mais si Dieu avait prescrit 10% comme base pour le culte juif, c'est qu'il savait que ce seuil serait certainement humainement praticable. C'est aussi, sans en faire une règle, c'est un bon point de repère pour ceux qui s'interrogent sur cette problématique, c'est-à-dire ceux, par exemple, qui viennent de se marier, qui construisent le budget pour leur famille. Bon, alors, comment on va faire pour l'Église ? Ah, eh bien, faites comme vous voulez, c'est à vous de décider devant Dieu, mais une base, ça peut être ce chiffre-là, si vraiment vous n'avez pas de réponse autre. Donc, l'important, eh bien, c'est de se fixer votre budget familial avec les dons pour le Seigneur. Et ce qui est aussi important, c'est d'expérimenter ce budget par la foi. Fixez votre budget et expérimentez par la foi. Combien pourraient témoigner de bénédictions expérimentées lors d'engagement par la foi dans le domaine des dons? On ne va pas faire une séance de partage de bénédictions, mais je sais que plusieurs dans la salle ont pu expérimenter de grandes bénédictions au travers d'une gestion des dons, comme je viens de l'évoquer. Et je ne résiste pas au plaisir de raconter une expérience que les plus anciens, mais je crois qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Je peux dire que certains sont absents parce qu'il y a une bonne nouvelle. Je livre une information d'un baptême en Angleterre du fils de quelqu'un de l'Église. Et il y a une délégation qui est partie pour accompagner cet homme, fils d'une dame de l'Église. Une grande victoire spirituelle, un de ses fils s'est converti, donc il se fait baptiser. Donc en dehors de peut-être une ou deux personnes qui sont absentes aujourd'hui, là, je crois que personne ne doit se souvenir de cette histoire. Il s'agit en fait d'une expérience que quelqu'un m'a racontée, une dame qui est enterrée à Villecerf, pour tout vous dire, qui était missionnaire avec son mari en Algérie, et qui, dans les années 60, recevaient leur soutien, c'est les Anglais, ils recevaient leur soutien par des mandats postaux, à l'époque, il n'y avait pas les cartes bleues, Internet, etc. Et suite à un retard dans l'acheminement du courrier, vous savez, au fin fond de l'Algérie, il fallait que ça arrive, etc. Bon, bref, eh bien, ils n'avaient plus rien, les poches étaient vides, complètement, les rayons du placard étaient complètement vides, et ils n'avaient plus rien à manger. Ils ont prié, et le Seigneur a répondu, ils ont trouvé devant leur porte, excusez-moi pour l'émotion, un animal chassé par leur voisin, qui était parti dans la brousse, chassé, et qui leur avait déposé, c'était peut-être un lièvre, je ne sais plus, pour leur nourriture. Le Seigneur est fidèle, il a honorer leur pas de foi. Et donc, en conclusion, ce passage nous encourage et nous interpelle. Il nous encourage à expérimenter régulièrement la bonté de Dieu en étant fidèles dans nos engagements financiers pour mettre son œuvre, des engagements financiers pour son œuvre et pour l'Église. Ces engagements nous coûtent certes, mais c'est une prise de risque que nous devons assumer par la foi et avec joie dans les textes qu'on a vus, en nous fondant sur les promesses de Dieu, Dieu qui peut détruire les insectes nuisibles, qui peut favoriser des tas de choses dans notre vie pour nous accompagner dans nos pas de foi. Il nous interpelle aussi en attirant notre attention que, trop souvent, nous pouvons négliger notre responsabilité devant Dieu en volant Dieu sur les offrandes et sur les besoins du culte. Que Dieu nous garde et nous accompagne dans ce domaine. Prions. Seigneur, nous ne sommes plus sous le régime de la dîme et du peuple juif. Mais nous sommes sous ta grâce et au bénéfice de tes promesses et de tes mots d'ordre, de tes feuilles de route. Et tu veux que nous partions dans le monde, tu veux que le monde soit évangélisé, tu veux que des personnes soient secourues. Et Seigneur, nous savons que cela passe aussi par notre engagement personnel. Nous voulons te remettre chacune des familles ici présentes, te demander de nous accompagner dans notre engagement à ton service. Que notre foi soit mise à l'épreuve et que nous honorions ta personne en toutes choses. Conduis-nous au nom de Christ. Amen.